deuxième partie d'Onde Noire. Et je dois tout de suite faire un rectificatif parce que notre technicien préféré et néanmoins unique me dit que la Guinness, c'est pas âpre, c'est pas amer. Donc bon, on va rectifier un petit peu. Peut-être que pour certaines personnes, c'est une très bonne bière. Voilà, en gros, c'est une très bonne bière. Allez, à votre pinte. Et Jacques, là, on est en France. Ou reste-t-on en France ? L'auteur est français.
L'auteur est français et ben, le roman se passe en France, effectivement. C'est un roman un peu atypique, du moins pour notre émission, un roman que l'on appelle transgenre.
C'est atypique, mais il est quand même à toi, le roman.
C'est à moi, effectivement. Transgenre, donc, parce qu'il y a marqué thriller sur la couverture, mais en fait, c'est plutôt un roman de science-fiction. Mais c'est aussi un polar, on va dire un polar d'anticipation, c'est ce qui le caractérise le mieux. Une assez courte anticipation, hein, c'est environ 40-50 ans après, après maintenant. Quoi. Mais dans sa forme, c'est vraiment un thriller.
Et là, je sens les auditeurs qui se disent « Mais il va le dire, le nom de l'auteur ?»
Alors, le nom de l'auteur, c'est Marin Le Dain. Le nom du livre, c'est Zone Est. Et l'éditeur, c'est Fleuve Noir. La Zone Est, c'est l'ex-Vallée du Rhône, à peu près entre Orange et Lyon. Mais du Rhône, il n'y en a plus. Non, c'est pas tout à fait ça. Mais il a été asséché. Et ben, cette zone est, en fait, est entourée et ceinte d'un grand mur où sont regroupés ben, les survivants d'une expérience scientifique qui a mal tourné, disons. Des nanovirus sont sortis du laboratoire un peu de façon expéditive et ont envahi le corps humain et détruit les organes, nos organes et la peau. Et donc, ceux-ci sont remplacés par d'excellents scientifiques par des prothèses. Lesquelles prothèses sont fabriquées par le même laboratoire qui a créé les nanovirus.
C'est étonnant.
Bon, c'est un thème, ceci dit, un peu classique de la SF, l'expérience scientifique qui a mal tourné. Mais ici, elle est traitée vraiment avec intelligence et avec une vision très spéciale, la vision de Marin Le Dain. Donc, il y a un héros principal, qui est Thomas Ziegler. Alors, lui, c'est un chasseur de mémoire. Chasseur de tête, chasseur de mémoire. À la demande de ses commanditaires, il repère, puis efface de la mémoire du sujet concerné, donc, quelques minutes ou quelques heures. Bon, avec un appareillage que je ne vous décris pas, hein, vous lirez.
Il y a un film de Michel Gondry qui utilise ce concept d'effacer la mémoire, comme ça, des amours anciennes, et pour ne pas être malheureux.
Oui, bah là, ça n'a rien à voir. C'est plutôt parce que ces gens-là, ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir.
Mmh. Ah, c'est Man in Black.
Voilà. Et donc, ce Thomas Ziegler, en fait, lui, à un moment, un jour, il regarde dans la carte mémoire qu'il vient de récupérer chez un de ses clients sujets, et il voit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Je ne vous dis pas quoi, évidemment. Thomas, il bosse aussi pour Styx. Styx, lui, c'est un reseller, dealer, cyborg.
C'est beaucoup pour un seul homme.
Et il bosse, il va travailler là, dans ce roman, dans cette affaire, avec une superbe femme, disons, une combattante,
s'écrit.
Une créature, non, mais c'est une femme quand même, mais elle a un nombre étonnant de pièces greffées, donc on ne sait plus qu'est-ce qui lui reste vraiment.
De féminin, va-t-on dire.
De féminin, si, mais d'humain. Voilà, très sexy, ça pourrait être la femme fatale.
Les femmes sont des êtres humains comme les autres.
Certes, mais le cyborg, non. Et il y a un grain de sable, mais un grain de sable en forme peut-être de lueur d'espoir, c'est EO, je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit E-O-H, qui est une jeune humaine sur laquelle le virus n'a pas d'emprise. Donc, en fait, un espoir qui renaît peut-être. Y aurait-il quelque chose de l'autre côté du mur qui ceint cette zone est dans lequel,
ça aussi, c'est très sérieusement l'idée du mur où il y a une catégorie de vivants et à l'extérieur du mur d'autres catégories, c'est un thème qui nous a fait adorer la SF dans les années 80.
Voilà, il remodèle bien ce thème, ce modèle, pour en faire son livre, en fait, dans lequel il traite de ses sujets favoris, donc essentiellement le marketing viral. Car évidemment, avec toutes ces greffes qu'on a eues, toutes ces puces qu'on a greffées sur notre corps, on est pisté, on est pubé, on est marketé presque. Et il y a aussi la mise en cause, évidemment, de la puissance des labos pharmaceutiques. Donc c'est effectivement totalement dans le futur. Hein. et de leur collusion avec le pouvoir.
Donc totalement ça, futuriste aussi.
Voilà, ça, ce sont vraiment des thèmes que dans les précédents romans de Marin Le Dun, il traitait aussi un petit peu. Et il a une bonne idée pour nous montrer que ce futur n'est pas si éloigné. Il garde des éléments de notre présent. Alors, il y a des clés USB, les militaires ou les milices utilisent des Glock et des Kalachnikov, se trimballent dans des SUV qui pourraient être tout à fait dans nos rues aujourd'hui. C'est vraiment une vraie belle réussite, car sous la forme d'un thriller qui est très très prenant, il nous mène vers une réflexion sur notre propre monde. Surtout que la fin est... très forte, originale et très très subtile.
Donc en gros, on va vous raconter votre futur proche pour vous montrer à quel point votre présent est terrible.
Voilà, bah c'est un petit peu... Ou pourrait le devenir incessamment si on fait rien, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup... moi j'ai beaucoup pensé à certains romans de Philip K. Dick en lisant ça. Alors il y a quand même malgré tout un tout petit bémol, c'est que Marin Le Dun a fait un roman un petit peu trop copieux. Alors pas forcément en termes de nombre de pages, mais on sent qu'il a beaucoup voulu en dire, et il y a des fois en fait il met des détails ou des morceaux d'idées qui nuisent un tout petit peu au rythme du récit, pas tellement à sa qualité, mais au rythme. Ça, de temps en temps, là, il y a la tension qui baisse un petit peu, et c'est un petit peu dommage.
Peut-être pour ménager le lecteur.
Peut-être pour ménager le lecteur, mais vraiment c'est vraiment un très très léger.
Bémol
pour un très très bon livre.
Donc, très bon roman de Marin Le Dun, Zoneste, chez Fleuve Noir. Et pour anticiper la prochaine chronique, on vous dit pas, mais le morceau de musique a quelque chose à voir avec la prochaine chronique.
Oh ben si, on va vous dire carrément, bien sûr, puisqu'on recule devant rien dans cette émission Onde Noire, ni même à Agora FM, puisque Jean-Marc va nous parler d'un auteur norvégien. Et ben nous avons invité cet auteur norvégien, par l'intermédiaire de musique de l'électronique bien évidemment, à venir chanter un petit morceau. Le groupe s'appelle Dider, le morceau s'appelle Farenti Ivar.
C'est
un Norvégien. Donc,
tu parles norvégien couramment.
Voilà, donc prononciation absolument pas garantie. Et donc, on en parlera tout à l'heure. L'auteur en question, c'est Jones Bø. Donc en attendant, Farenti Ivar.
Denna är hon fan, fan till livar, fan till livar.
Pour ce rock pop venu du froid.
Une chanson popinette et norvégienne.
Popinette et norvégienne. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre. Donc Jean-Marc Laherrère, spécialiste de polar, animateur du blog Actu du Noir, que vous pouvez retrouver avec plein de chroniques et plein de bonnes idées de polar. Et ce soir, on a passé un morceau de Jones Beu, parce que justement, vous allez nous parler du dernier livre de cet écrivain.
Eh oui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le Léopard, de Jones Beu, donc, le Norvégien, qui est publié à la Série Noire et traduit par Alex Fouillet. Alors, Jones Beu, à part une exception en France d'un titre qui n'appartient pas à cette série, c'est l'auteur d'une série qui a pour héros un flic qui s'appelle Harry Hall. Un flic comme il y en a beaucoup finalement dans le polar.
Oui, c'est un personnage qu'on retrouve.
Voilà. Comment dire, mauvaise tête de lard, qui s'entend pas avec sa hiérarchie, qui prend des coups, ancien alcoolique, qui replonge, à l'occasion drogué, mais qui est, ben voilà, qui est excellent.
Et qui est intègre, qui suit quand même.
Il est intègre. Voilà. Voilà,
c'est pas un ripou, quoi.
Voilà, il sait, parfois ça le dérange pas forcément d'être un peu en marge de ce qu'il devrait faire, mais par contre il est intègre, voilà, il cherche pas son intérêt personnel. À la fin de du roman précédent qui s'appelait Le Bonhomme de Neige, il avait pris beaucoup de coups.
Ouais.
Et donc il est parti, on découvre au début du Léopard, qu'il est parti se terrer un peu pour panser ses plaies à Hong Kong, où finalement il a l'air de végéter entre cuites, jeux aux courses et autres. Et pourquoi on va aller chercher à Hong Kong? C'est parce qu'à Oslo, il y a deux jeunes femmes, les cadavres de deux femmes qui ont été retrouvées, tuées toutes les deux dans des circonstances qui sont non élucidées, avec des traces de blessures que les enquêteurs ne comprennent pas. Et puis comme Mario, c'est le seul flic qui s'est déjà frotté à des tueurs en série en Norvège, et il y a une fliquette qui s'appelle Kaja Solnes, qui est très belle, et qui va avoir la dure tâche d'aller le dénicher à Hong Kong et de le ramener alors qu'il n'a aucune envie de revenir. On le fait revenir parce que son père est sur le point de mourir, donc il finit par accepter, et le voilà donc qui va devoir affronter une fois de plus ce qui pourrait être un tueur en série. Normalement, on ne le sait pas avec assurance au début. Mais pas seulement ça, parce qu'il arrive en plein milieu d'une guerre des polices entre son ancienne brigade des homicides et une toute nouvelle structure qui voudrait tout
chapeauté.
Tout chapeauté, avec à sa tête un beau gosse lisse, mais aux dents très très longues, prêt à tout pour faire à sa place, qui a une dent en particulier contre Ariol, comme beaucoup de flics, parce que Ariol, dans une de ses aventures précédentes, a fini par tuer un autre flic qui était pourri jusqu'à la moelle.
Oui, et puis bon, c'est vrai qu'il se heurte souvent à la connerie de ses collègues, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui l'aime bien, lui.
Oui, à la connerie, et pire que la connerie, parfois, parce que certains de ses collègues sont même corrompus, fascisants, c'est à ça qu'il s'est heurté aussi à plusieurs reprises, parce que Ariol, il n'a pas du tout l'esprit de corps, donc quand il faut rentrer dans l'art de la police, il rentre dans l'art de la police. Et donc voilà, c'est au milieu de tout ça là qu'il va se débattre. Alors, c'est un thriller pur et dur, 100%, qui va très vite, qui démarre très fort, et qui réussit à tenir le rythme sur 760 pages, quand même.
Oui, c'est un très très gros bouquin.
910 grammes.
Oui, voilà. C'est un très gros bouquin. Et puis quand on en parle comme ça, on peut se dire, bah oui, mais pourquoi ça marche?
Parce que finalement, on a envie de parler de ce livre par rapport à des tas d'autres thrillers qui sortent.
Et d'autres thrillers, surtout quand on le résume comme ça, on pourrait dire, bah ouais, un serial killer, un flic atypique, alcoolique, qui se bat avec sa hiérarchie, des coups, des trahisons, finalement, ça pourrait être le résumé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de thrillers. Et pourquoi celui-là est-il à part? Bah, c'est une question à laquelle il est un petit peu difficile de répondre, quand même. D'abord, bon, John Nesbo, il a un talent
exceptionnel
pour construire ses intrigues. Parce que des coups de théâtre, on en voit partout, mais comme ici, réglés à ce point au millimètre, avec cette science de ce qu'il peut dire au mot près pour qu'on croit comprendre quelque chose sans en être sûr et s'apercevoir 150 pages plus tard qu'on s'est fait bluffer complètement, c'est très très fort de faire ça et de le faire sans donner l'impression de manipuler des grosses ficelles, parce que finalement, il y a ça aussi. C'est un procédé.
Elle se voit souvent les grosses ficelles dans les thrillers.
Eh oui, on en trouve beaucoup, parce qu'il y en a qui ont cru comprendre quels étaient les mécanismes et qui croient donc qu'ils peuvent en construire comme ça.
Oui, il y en a beaucoup qui croient ça.
Il y en a beaucoup, mais il n'y en a aucun qui le fait comme ça. Parce que justement, voilà, on se fait avoir, il a l'art de finir un chapitre sur ce genre d'image là où on voit le héros suspendu à une mer, à une falaise avec le méchant qui lui marche sur les doigts et puis quoi. Mais il le fait très bien, ça marche à tous les coups. Et puis il y a les personnages. Il y a Ariol, d'abord, qui est un personnage exceptionnel. Il arrive à nous faire sentir ses peines, ses doutes, sa rage.
Oui, ça, je crois que c'est aussi ce qui fait de John Nesbø un des auteurs qu'on suit le plus, aussi bien vous que nous. C'est-à-dire que des personnages récurrents, de flics qui ont de la peine et des problèmes et qui sont alcoolos ou accros à la drogue, il y en a plein. Mais du lot, il y en a 5 ou 6 qui ressortent, et Ariol s'en est un de ceux-là.
Voilà, exactement. Il y a Ariol. Et puis, alors là où il a un très grand talent aussi, c'est John Nesbø. Il a une cohérence dans tous ses livres. C'est rarissime que dans un livre, on n'ait pas... Ça vaut le coup de lire dans l'ordre, parce que c'est rare qu'il n'y ait pas quelque part quelque chose qui vienne d'un précédent, ou même de 3 ou 4 livres avant. Il arrive à construire cette cohérence au fur et à mesure de son œuvre, qui fait que pour le lecteur habitué, c'est un plaisir supplémentaire en plus de ce personnage. Les méchants sont extrêmement méchants, puisqu'il faut appeler, on va dire, les choses comme elles sont. Comme disait Hitchcock, pour réussir un bon film qui fait peur, un bon polar au cinéma, il faut réussir le méchant. Bah, Ariol et John Nesbø ont très bien compris, et là, ils sont exceptionnels, les méchants.
Ah, ça, oui.
Ils beaucoup, surtout.
C'est
parce que c'est jamais simple, c'est jamais celui qu'on croit, et puis les flics font aussi peur que les tueurs, et puis voilà, il y a tout ça. Tout ça qui fait qu'on tremble, qu'on tourne les pages, c'est très difficile, les 200 dernières pages, de ne pas les lire d'un coup. C'est extrêmement difficile. J'ai pas réussi, moi, pour ma part.
Oui, ben apparemment, vous n'êtes pas le seul. Il y en a beaucoup qui comme un page-turner, hein, avance très très vite. Bon, le seul truc, c'est pour le lire au lit, c'est un peu dur, c'est un peu lourd.
Voilà.
S'installer dans un bon fauteuil.
Voilà, ou alors il faut faire un peu de muscu avant, ou trouver, il faut trouver une solution, oui, ou alors s'asseoir en tête de lit, parce que c'est vrai qu'il est lourd. Mais voilà. Il marche très très bien, puis c'est bien écrit.
Voilà, alors on va rappeler, je suis désolée, on est un petit peu pris par le temps, là, ça va s'arrêter dans quelques secondes, donc on va rappeler le nom de l'auteur, du livre et de l'éditeur, s'il vous plaît.
Alors, John Nesbø, Le Léopard à la série noire, traduit par Alex Fouillet.
Voilà, et allez chercher, alors on peut le lire dans l'ordre ou dans le désordre, mais vous pouvez aller chercher les anciens chez Folio Policier, ils sont tous très très bien. Merci donc, beaucoup Jean-Marc. Merci, à la prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.